Alors, je voudrais commencer aujourd'hui par une réflexion autour du nom Israël. Tout le monde connaît ce nom, et encore plus depuis qu'un État porte ce nom. Mais on retrouve ce nom pour la première fois dans la Torah, dans notre présente paracha, la paracha Vaishlach. Le sujet, au niveau du pshat, c'est que Yaakov, à un moment donné, s'est retrouvé seul. Il a été attaqué par l'ange de Esav, et la tradition enseigne, puisqu'il a été attaqué par un ange du peuple de Esav, c'est que toutes les nations ont un représentant céleste. Elles ont un ange qui leur est particulièrement attaché, et cet ange-là leur donne la force matérielle qui est la leur. On apprend cela d'un verset d'une paracha du livre de Shemot qui nous dit ceci: Va'ani, ekhté et lev paro. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et c'est la même racine, ce mot a la même racine que le mot que l'on utilise couramment en hébreu moderne, caché, c'est caché, c'est difficile. Bon, ça veut dire que ça devient dur, c'est dur. Et c'est le futur avec le Aleph, hein, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Ok, on a compris ce que cela dit au niveau du tchat. Mais en lisant bien, on se rend compte qu'il y a et lev paro. Alors, et, c'est quoi ce et? Ce et, c'est une particule. C'est une particule qui, avec d'autres, hein, comme gam, comme af, etc., une petite particule qui sert surtout à introduire un complément d'objet direct. Mais les Chachamim, en particulier, c'est l'une des règles de Nahum Ishgamzu. Une de ces règles, après les règles de Hillel HaZaken, eh bien, Nahum Ishgamzu a expliqué ce qui vient nous apprendre quelque chose, c'est que l'on ajoute au sens. Et là, ce et nous indique que ce n'est pas le cœur de Pharaon qui a été endurci, mais aussi celui de son représentant céleste, l'ange de Mitzrayim. Donc, ici, nous avons également, donc, quand Yaakov a été attaqué, il a été attaqué par l'ange de Esav, et on sait qu'il y a des anges pour cette raison, c'est que la tradition nous explique que chaque nation a un ange particulier. Et je vous ai cité ce verset de Shemot d'où l'on tire cet enseignement. Il y a d'autres cas, évidemment, de quantité d'autres cas que l'on pourrait citer. Par exemple, lors de l'enterrement de Sarah par Abraham, il est écrit Et Sarah. En fait, ce et-là, dans Bereshit 23, ce et indique qu'Abraham a enterré Chava avant de pouvoir enterrer Sarah. Il a enterré Sarah, mais il y a le et. Et qu'est-ce que nous dit ce et? C'est que, attention, il y avait quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, entre guillemets, c'est un autre enterrement. Voilà, on retrouve ça à plusieurs reprises, par exemple à propos des fruits de la Orla, c'est-à-dire l'arbre fruitier en Israël pendant ces 3 premières années, après la plantation, eh bien, le fruit est interdit. Eh bien, là aussi, on a un et qui vient nous interpeller, puisqu'il est écrit, vous en considérerez le fruit comme une excroissance, donc on ne peut pas y toucher, on ne peut pas le manger. Mais là, ce n'est pas le fruit, c'est être le fruit, pour nous indiquer que non seulement le fruit, mais également ce qu'il peut y avoir avec, par exemple, par exemple, les graines, les peaux, si elles sont comestibles, etc. Bon, je ferme cette petite parenthèse qui n'est pas que grammaticale, c'est une parenthèse d'exégèse, c'est une règle de l'herméneutique juive, règle qui fait partie de ce que l'on a qualifié ici depuis le début de la petite mallette, de la boîte à outils que l'on a grâce à la Torah orale pour comprendre la Torah écrite. Donc on a ici cette indication qu'il y a un combat. On va revenir probablement sur ce combat si on a le temps, mais ce dont je voudrais parler, c'est que il y a une lutte entre l'ange de Esav et Yaakov, mais en partant, l'ange de Esav dit le mot Israël. Il donne le nom Israël à Yaakov. J'ai eu l'occasion la semaine dernière, dans le cours précédent, de mentionner cette lutte entre Jacob et l'ange de Ésaü, lutte qui est présentée, non pas dans la paracha précédente, mais dans celle d'aujourd'hui, dans Vaïshla. Les maîtres du Midrash voient dans ce combat une parabole. C'est la lutte éternelle entre Israël et toutes les forces hostiles dans l'histoire. Jacob s'est mis en danger et il a été à la fin qualifié d'Israël. C'est sur cela que l'on va s'attarder à présent, avant de réfléchir sur cette lutte elle-même. Le nom, sens littéral, il y a Israël, ok, mais les rabbins du Midrash nous révèlent des allusions profondes autour de ce nom. Et dans la boîte à outils de la Torah orale, nous avons un certain nombre d'outils autour des lettres. Et il y a des lettres, Yisraël, donc cinq lettres, Yod, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Et chacune des lettres porte une symbolique. Il y en a toute une série de symboliques. Voyons la première. Enfin, la première sans ordre particulier, hein, la première que je cite. Je ne mets pas un ordre de valeur la plus importante à la moins importante, hein. Simplement, voyons l'une d'elles. Eh bien, Israël, c'est toute une vocation qui est inscrite dans l'alphabet de ce nom. Israël commence par Yud. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. C'est presque un point. Eh bien, cette lettre renvoie à l'humilité et c'est une allusion, Yod, comme Yad, à la main de Dieu qui guide Israël. Shin, deuxième lettre de ce nom, c'est une lettre à trois branches, qui s'écrit avec trois branches, et c'est souvent associé au feu, Esh, Shin, Esh, il y a des relations, et également donc à la spiritualité. De plus, le Shin renvoie aux trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob. Troisième lettre, Resh, une forme simple, courbée, ouverte, c'est une allusion à la condition d'Israël, à la condition humaine même aussi. Mais en tout cas, Israël est capable de se relever, comme ce Resh qui est presque en déséquilibre, si on voit la géométrie de cette lettre, très très dissymétrique, mais il est capable de se relever. Quant à la quatrième lettre, Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet qui est symbole de l'unité divine. C'est une allusion à Israël lié à Ehad, au Dieu unique, à Hachem. Israël, dans son nom même, porte la trace de son attachement à Hachem, dernière lettre, Lamed. Une lettre que l'on connaît, pour ceux qui connaissent un peu l'écriture hébraïque, la lettre élancée, qui dépasse la ligne d'écriture. Car en hébreu, on n'écrit pas sur une ligne, mais sous une ligne. Disons, les lettres hébraïques sont collées à la ligne supérieure. Et au-delà de cette ligne supérieure, nous avons le lamed qui dépasse. C'est la seule lettre hébraïque qui dépasse la ligne. Et cela est un symbole, une allusion très nette au fait qu'il est possible de s'élever spirituellement, de dépasser le stade actuel que l'on peut avoir grâce à l'étude. L'Amud, c'est un symbole du limoud de l'étude. Voilà donc une allusion dans le mot Israël, la vocation inscrite dans l'alphabet. Maintenant, si vous voulez, on fait un petit détour vers les mathématiques. 541, c'est un nombre entier, certes, hein, il n'a pas de virgule, mais il n'a pas de partie décimale, mais c'est un entier qui n'a que deux diviseurs possibles. On peut le diviser par 1 et on peut le diviser par 541. Donc, il est divisible par lui-même. C'est ce que l'on appelle en mathématiques un nombre premier. Il y en a toute une série comme ça, hein. Mais le fait que Israël corresponde à un nombre premier, cela symbolise d'une manière tout à fait claire pour qui veut le comprendre, l'unicité l'indivisibilité d'Israël. On ne peut diviser spirituellement Israël, tout comme un nombre premier ne peut pas être divisé et décomposé par d'autres facteurs. Donc voilà quelques allusions. Je vais un peu vite, hein, je sais, mais on essaie d'avancer. Israël, c'est aussi le peuple qui unit, là on passe plus au côté non plus Rémez, mais au côté Sod de la chose. Israël, c'est aussi le peuple qui unit les Séphirotes, les patriarches, etc. Nous avons 10, c'est une allusion aux 10 Séphirotes. On a abordé le sujet précédemment, donc je ne m'étends pas plus sur ce sujet. Le 300, c'est l'allusion, on l'a dit, aux trois patriarches. 200, c'est la capacité de se relever, on l'avait dit aussi, mais surtout le 1, unité divine, et le 30, l'élévation et l'étude. Le mot Israël comprend le yod des patriarches, toutes les lettres des patriarches et des matriarches. Nous avons comme patriarche, on a Abraham. Eh bien, dans Israël, il y a un Aleph. Dans les patriarches, nous avons Yitzhak. Et le yod d'Israël fait allusion à Yitzhak et à Yaakov. Les matriarches, nous avons Léa. Eh bien, il y a un Lamed dans Israël. Nous avons un Shin, c'est Sarah qui commence par un Shin. Et enfin, un Resh qui correspond à Rachel et à Rivka. Donc voyez-vous, dans Israël, on retrouve toutes les initiales, enfin plutôt les initiales qui correspondent à tous les patriarches et à toutes les matriarches. Bon, on pourrait aussi continuer en évoquant les acronymes. On va prendre par exemple les lettres de Yisraël, chaque lettre correspondant à un mot, et nous avons Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. C'est-à-dire, Israël comprend 600 000 lettres. Donc, Israël est absolument lié à la Torah. Chaque âme juive correspond à une lettre vivante de la Torah. On reviendra sur ce point. On a d'autres acronymes, par exemple, Yesh, Sarim, Roche-El. Il y a des princes, les chefs de Dieu, ce qui fait allusion au fait qu'Israël est un peuple qui est porteur d'une certaine dignité spirituelle, sans forcément, sans absolument pas amoindrir les autres, mais il y a une mission particulière qui est une mission spirituelle d'Israël, entre guillemets, prêtre des nations, comme l'expliquent nos maîtres. On a encore un petit dernier acronyme pour la route. Yish, Yireh, Shemo, Ra'ael. L'homme qui craint le nom de Hachem, c'est comme s'il avait vu Dieu. Et c'est-à-dire, ça fait une allusion directe, cet acronyme, au fait que Israël est un peuple qui vit avec la conscience de Dieu, de son existence, de son action dans le monde. Enfin, le petit côté un peu moins évident, le côté Sod, si vous voulez, on l'a signalé tout à l'heure à propos de l'acronyme Yeshishim Ribo Otziot la Torah, il y a 600 000 lettres de la Torah. Bon, là, c'est la tradition kabbalistique qui affirme cela. 600 000 âmes juives. Bon, c'est un kabbaliste de Cracovie qui a, au XVIe siècle, enseigné cela, enseigné, c'est-à-dire qu'il a révélé un enseignement. Il précise l'acronyme que j'ai cité tout à l'heure. Mais, en fait, on a un petit problème. C'est que si on s'amuse à compter toutes les lettres de la Torah, eh bien, on n'arrive pas à 600 000. On arrive autour de 305 000 lettres. Et il en manque la moitié quand même, hein? Donc c'est un petit problème, disons. Pourtant, le Baal Shem Tov a dit que ben, c'était le compte des Bnei Israël, que chaque lettre correspond à la racine d'une âme juive, c'est-à-dire 600 000. Et la pensée chassidique a d'ailleurs largement répandu cet enseignement. Le Baal HaTanya a écrit dans son Likutei Torah, les 600 000 âmes sont les 600 000 lettres de la Torah. Et même le Zohar, Akadosh, dans le Zohar Hadash sur Shirachirim, il explique précisément que la Torah contient 600 000 lettres. Alors vous voyez, là, c'est un casse-tête. On est embêté parce qu'on prend vraiment beaucoup de temps pour compter chacune des lettres du Sefer Torah. On n'arrive pas à ce compte. Donc ça a bien entendu, vous vous en doutez, soulevé quantité de questions depuis vraiment des siècles, mais des solutions ont été proposées. Et en particulier, le Rav Gabriel Dayan a fait le point sur ce sujet, et mon ami Shmuel Darmon, je crois, a trouvé la solution complète à ce dilemme. Bon, déjà, nos maîtres l'avaient trouvé la solution, mais on n'arrivait pas à 600 000. Il avait trouvé, mais on n'était pas loin de 600 000, mais pas tout à fait. Eh bien, Baruch HaShem, Shmuel Darmon a trouvé exactement comment faire correspondre. Ça s'appuie, sa remarque s'appuie sur ce condinomètre, hein, il n'a rien inventé là-dessus. C'est ce condinomètre, c'est-à-dire que les lettres se décomposent, si on regarde leur graphie, en d'autres lettres. Il y a d'autres, par exemple, tout le monde sait, enfin, depuis très longtemps, le Bahir déjà explique cela au Moyen-Âge, que le Aleph contient dans sa graphie un Yod, un Vav et un Yod en bas. Vous voyez, donc on a trois lettres dans une, trois pour une, dont deux yod. Et donc ça, c'est une donnée connue. Mais il y a, si l'on, voilà, je résume en quelques secondes la méthode. Si l'on compte toutes les lettres de la Torah, une par une. Il y a tant de Aleph, il y a tant de Bet, il y a tant, etc. On arrive à un total, je vous l'ai dit, qui correspond à 305 000 environ et non pas à 600 000. Mais si la lettre n'est pas considérée comme une lettre, mais comme un ensemble de lettres éléments qui la composent, eh bien, pour Aleph, on ne dira pas un, on dira trois. Donc, on change notre total. C'est non pas un multiplié par le nombre d'occurrences de la lettre Aleph dans la Torah, mais trois multiplié par le nombre d'occurrences. Voilà. C'était la méthode qu'ont suivi nos maîtres, hein, pour arriver à un total qui, malheureusement, n'arrivait pas exactement à 600 000. Eh bien, Shmuel a réussi à faire correspondre à 600 000 parce que il y a, selon nos maîtres, plus ou moins, c'est pas toujours les mêmes lettres éléments qui sont dans les lettres. Donc, en s'appuyant, certains, pour prendre un exemple, on pourrait. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça nous ferait déborder du temps, mais il y a des lettres où on considère généralement qu'elles sont composées de deux lettres. Mais il y a d'autres hachamim, vraiment très solides, hein, qui disent que ce n'est pas trois ou pas deux, c'est quatre. Alors, en prenant cette considération-là, pour quelques lettres seulement, il a réussi à considérer non pas ce qu'on dit usuellement, mais ce que disent certains maîtres, eh bien, on arrive dans cette somme, on arrive exactement au total 600 000. Donc, il y a des articles, hein, son texte est paru dans le site editionbakish.com, et son texte est paru, ils sont tous téléchargeables gratuitement, hein, facilement, gratuitement, c'est clair. Moi-même, j'ai écrit un texte sur ce sujet qui est aussi disponible. Si vous le voulez, je vous enverrai les liens électroniques. Donc voilà une autre manière de considérer Israël avec cette notion des 600 000 lettres. Puisque là, j'explique ceci par rapport à l'acronyme Shishim Ribo Otziot la Torah. D'accord? Voilà pourquoi je suis rentré dans ce développement, c'est parce qu'un acronyme du mot Israël nous oblige à considérer ceci. On dit que c'est 600 000, on a compté 305 000. Pourquoi? On a l'explication par nos maîtres. Autre considération, Israël et les Séphirotes. On est toujours dans le domaine du Sogd du Pardès. Bon, vous m'excuserez, je ne suis pas en mesure d'atteindre les profondeurs du niveau du Sogd du Pardès. Je me permets de donner quelques petits éléments que j'ai pu comprendre. Ils sont pas nombreux, mais c'est pas mal quand même. Ça nous permet de voir un peu plus clair certaines choses. Ici, chaque lettre du mot d'Israël et chaque lettre du mot Israël, donc les fameuses cinq lettres, nos maîtres expliquent qu'elles sont reliées à une séphira. Ainsi apparaît Israël. Israël va apparaître comme un pont entre le divin et l'humain. Et il va donc relier dans l'arbre séphirotique, relier Keter, c'est-à-dire l'unité divine, à Malchut, c'est-à-dire la royauté terrestre, pour faire simple. Donc, le Aleph, c'est le Keter, la royauté divine. Le Yod, c'est la sagesse, Chochma. Le Lamed correspond à Bina, c'est-à-dire l'élévation, l'intelligence, l'élévation par l'étude. Le Shin correspond à Chesed, Gvoura et Tiferet, trois séphirotes. Et le Resh à Malchut. Nous avons aussi le Aleph. Tout cela nous montre que ce petit mot de quelques lettres porte en lui une charge d'élévation, une charge d'allusion, une charge de secret mystique également, considérable, que l'on n'a fait ici qu'explorer. Voilà. Merci.